hommage au Bouddha, hommage au Dharma, hommage au Sangha. Nous nous tournons vers les trois joyaux et posons comme motivation une aspiration à l'éveil pour le bien de tous. Nous abordons maintenant le Hinayana, la voie de la discipline. Voie de la discipline au cœur de laquelle est l'attention. L'attention à une discipline de vie juste, saine, et l'attention comme expérience méditative, la pratique de la présence attentive. Le Dharmapada dit l'attention, la présence attentive est le chemin du royaume immortel. La négligence, l'inattention, celui qui conduit à la mort. Les personnes attentives ne meurent pas, les négligentes sont déjà mortes. Pour obtenir la libération, c'est-à-dire sortir du cycle des existences conditionnées, l'essentiel est, comme nous l'avons vu, de reconnaître la nature essentielle de l'esprit. C'est ce que nous avons développé dans des chapitres précédents. C'est en effet l'esprit, notre esprit, qui régit nos actes et décide de ce que nous faisons. Ce n'est ni notre corps ni notre parole. L'esprit est l'élément principal en ce qu'il commande au corps et à la parole. Il est comme le directeur, ou même on pourrait dire le roi, qui gouverne corps et parole. Si nous voulons aller quelque part, il a le pouvoir d'ordonner à notre corps de se mettre en route. Il a aussi le pouvoir de nous faire dire des mots plaisants ou désagréables. Donc, l'esprit nous gouverne. L'esprit est ce qui gouverne. Globalement, nous sommes constitués d'un corps, d'une parole et d'un esprit. Notre personne, ce que nous sommes, a ces trois dimensions. Notre être est corps, parole, esprit. Et si l'aspect essentiel est bien l'esprit et la réalisation de sa nature, le corps et la parole ont aussi une grande importance. C'est en s'appuyant sur eux que la réalisation spirituelle peut se développer. Nous pourrions dire, en quelque sorte, que le corps et la parole sont les serviteurs de l'esprit. L'esprit commande, le corps et la parole obéissent ou suivent. Il peut quelquefois sembler que ce soit trois éléments différents, mais en fait, ils existent dans une relation d'étroite interdépendance. Corps, parole, esprit ne sont pas vraiment séparés, ne sont pas vraiment distincts. Ils existent en corrélation, ils existent en interdépendance, ils dépendent les uns des autres. Dans cette perspective, les divers aspects de toutes les pratiques du Dharma font appel à ces trois éléments de notre être, à ces trois dimensions de notre personne. Il s'agit de ne pas séparer corps, parole, esprit, de ne pas partir dans un extrême physique, ni même dans un extrême spiritualiste. Pour cheminer sur la voie, Il est essentiel d'avoir une discipline juste au niveau du corps, de la parole et de l'esprit. La discipline juste dans sa pratique, dans son attention, va se développer dans ces trois dimensions interdépendantes que sont corps, parole et esprit. La Prochinayana, le véhicule étroit ou le véhicule de la voie de la discipline, est caractérisée par la préoccupation ou l'attention d'éliminer radicalement en soi toute action et toute tendance négative et à développer simultanément toutes les situations positives à ces trois niveaux. Donc, arrêter ce qui est malsain, cultiver ce qui est sain. C'est cette discipline, tout simplement. Et ce, au niveau aussi bien du corps, de la parole que de l'esprit. Elle est orientée vers la libération individuelle, la libération personnelle de la souffrance et l'obtention de la paix et du bonheur. C'est par une discipline stricte, reposant sur la compréhension du karma, c'est-à-dire l'enchaînement des causes et des conséquences des actes positifs ou négatifs, que nous accomplissons. Donc, la voie de la discipline repose sur la compréhension du dharma, c'est-à-dire la compréhension de l'enchaînement causal des actes que nous accomplissons, qu'ils soient positifs ou négatifs. Les positifs ont des bonnes conséquences, les négatifs ont des mauvaises conséquences. Bonnes et mauvaises, bon ou mauvais, signifie ici aussi heureux et malheureux. Alors, la discipline des engagements de la méditation. Le Hinayana propose différents types d'engagement dits de libération personnelle. La libération de la personne se fait dans la pratique d'une discipline qui repose sur des préceptes, des engagements, qui maintiennent une discipline juste. Ces engagements sont ceux des ordinations monastiques, majeur et mineur. Majeur, ce sont les vœux de Bhikshu, et mineur, ce sont les vœux de Shramanera. Alors, il y a au masculin Bhikshu et Shramanera, et au féminin Bhikshuni et Shramaneri. Ou simplement, il y a les vœux d'Upasaka ou d'Upasaki, qui sont les engagements de pratiquants dans la vie, d'apprentis de la vertu, qui ne comprennent pas le célibat et qui sont donc les cinq préceptes ou les engagements pour les personnes qui ont une vie familiale active, habituelle. Si nous ne prenons pas les vœux monastiques, il y a ces vœux de pratiquants de la vie, ou au moins toujours l'engagement du refuge, dont la discipline consiste à abandonner les 10 actes négatifs et à cultiver les 10 actes positifs autant qu'on le peut. Donc, lorsque l'on entre en refuge, c'est-à-dire lorsque l'on se tourne vers l'éveil, il y a cet engagement qui est de cultiver autant qu'on le peut ce qui est sain et d'éviter autant qu'on le peut ce qui est négatif. Et nous avons pour ce faire 10 références qui sont 10 points, que sont les 10 actes négatifs et les 10 actes positifs. Ces engagements sont importants comme moyen de fermer la porte aux tendances négatives. C'est une façon de se tenir à l'écart de nos tendances, de nos pulsions négatives et d'éviter d'abonder dans celles-ci. Il facilite beaucoup les engagements, l'abandon des actes négatifs et l'adoption des positifs. En effet, si nous ne sommes pas capables par nous-mêmes et dans le contexte ordinaire de nous abstenir de tuer, de voler ou de mauvaises activités sexuelles, les engagements donnent la force de le faire. De même, au niveau des actes négatifs, de la parole et de l'esprit. Nous verrons ces différents actes positifs et négatifs, mais l'idée est que si l'on n'a pas naturellement et spontanément la capacité de s'en abstenir, le fait de s'y engager nous détermine, nous pose la résolution d'éviter ces comportements et c'est un aide puissant pour se libérer de leur emprise et les éviter. L'approche du Hinayana est aussi une discipline de méditation, une discipline de l'expérience profonde, de l'attention, une discipline d'attention, l'attention au cœur de la voix, la présence attentive. Présence attentive qui permet la discipline du corps, de la parole et qui constitue la discipline de l'esprit. Elle développe, cette présence attentive, la stabilité du mental, un mental stable, un esprit stable. Stable, bien qu'il ne soit pas versatile, qu'il ne soit pas tout le temps agité, qu'il puisse rester au repos, qu'il puisse rester absorbé sur ce qu'il expérimente, sur une unique chose, cette stabilité qui lui donne une capacité, une puissance et des ressources extraordinaires. Stabilité du mental qui correspond à des états méditatifs dans lesquels l'esprit reste attentif à l'objet de sa méditation sans déviation ni distraction. Donc, posé, stablement, sans dévier et sans se distraire, sans être distrait par autre chose, sans quitter cette expérience attentive, stable. Observer la discipline et pratiquer la méditation dans laquelle l'esprit demeure uniquement absorbé en la vacuité constitue la voie du Hinayana. Les fruits en sont l'obtention des réalisations spirituelles d'Arhat et de Pratyeka Buddha. Alors, Arhat signifie un parfait, parfait au sens qui a soumis ou transcendé les passions. Et Pratyeka Buddha, c'est un Bouddha personnel, un Bouddha qui a réalisé l'éveil, mais sans avoir cette dimension d'ouverture qui est celle du Mahayana. On peut ainsi résumer l'approche Hinayana à l'observance d'une discipline stricte et au développement d'un état méditatif de présence attentive en une absorption unique. Deux histoires ici illustrent cette voie du Hinayana. La première est l'histoire de l'arhat balayeur. Donc c'est un moine qui devint un parfait, un arhat, en balayant dans la pleine présence. Il y eut dans l'entourage du Bouddha Sakyamuni un moine sans intelligence qui n'arrivait même pas à apprendre l'alphabet. Néanmoins, comme il avait une grande confiance en le Bouddha et une grande aspiration vers le Dharma, quelques-uns de ses compagnons allèrent trouver le Bouddha Sakyamuni pour lui demander conseil sur la façon de l'aider. Le Bouddha répondit: il peut lui aussi atteindre la réalisation. Qu'il pratique les actions positives abandonne les nuisibles et soit affecté au balayage du temple. Et il donna des instructions pour qu'il sache comment bien balayer avec attention. Il apprit à balayer dans une parfaite attention, dans une pleine présence attentive. Le moine pratiqua cela pendant plusieurs années et, purifiant son esprit des voiles qui l'obscurcissaient, son intelligence s'aiguisait. Finalement, un jour que le Bouddha Sakyamuni enseignait les quatre nobles vérités, il comprit l'enseignement, vraiment, et obtint l'état d'arhate. Il reste connu comme l'un des grands arhates de l'entourage du Bouddha Sakyamuni. Et une autre histoire met en évidence l'importance de la rigueur dans la discipline. C'est l'histoire du moine ivre et de la veuve. Cette histoire montre combien il est important de veiller précautionneusement à tous ses vœux. Il était une fois un moine mendiant qui arriva dans une maison où vivait une veuve. Elle le fit entrer, puis, s'étant enfermée avec lui, elle lui dit « Si tu veux sortir, ou bien tu bois cet alcool, ou tu me fais l'amour, ou tu tues ma chèvre. » N'ayant aucun échappatoire, le moine se dit « De trois mots, mieux vaut le moindre. » Il pensa qu'il pourrait s'en tirer au moindre mal en buvant seulement l'alcool. Ce qu'il fit, mais pris d'ébriété, il succomba à la séduction de la femme. Il se mit en ménage avec elle. Et finalement, il dit aussi tuer la chèvre. Un petit moment de méditation et de contemplation en une attention de pleine présence. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue.